Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est une des périodes les plus sombres de notre histoire que Franck Ferrand se propose de nous faire redécouvrir cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Certains parmi vous ont vécu ces quatre années du printemps 1940 à l'été 1944. Et tous ceux qui ne les ont pas vécues les connaissent forcément, ne serait-ce qu'à travers la floraison de films et de téléfilms qu'elles ont pu inspirer. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de nous immerger dans la France de l'occupation en mettant l'accent sur trois aspects majeurs, qui sont loin d'être exclusifs évidemment. Trois aspects importants de cette période, le rationnement, la délation et la guerre des radios.
Alors je vois à côté de vous toute une pile de livres.
Mais encore, ce n'est qu'une sélection, tant les éditeurs ont l'air de chérir cette période de l'histoire contemporaine. Les auteurs de trois d'entre eux sont nos invités aujourd'hui. Vous allez voir qu'ils ont des choses inouïes à nous apprendre.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Des restrictions qui affectent d'abord l'alimentation, donnant naissance à des cartes de ravitaillement et des tickets de rationnement et qui provoquent des queues de plus en plus longues devant les boutiques. Ces restrictions provoquant aussi l'apparition d'un troc généralisé et des marchés noirs dont nous allons parler dans un instant. Une floraison de bicyclettes, souvent parties explorer la campagne et ses réserves pour remplacer les autobus, les taxis, les véhicules privés qui sont loin de tous rouler au gazogène. Une pénurie qui s'étend à tout le reste avec des points textiles et des bons de chaussures. Une mode qui doit recycler les vieilles doublures et les rideaux, mais sans renier pour autant une certaine élégance. Le froid qui, au mauvais jour, s'insinue partout, surtout dans les villes où le chauffage central est le premier hors d'usage. Et en contrepartie, une vie intellectuelle intense, une affluence sans précédent dans les théâtres, dans les stades et même dans les églises, des films, des pièces, des livres qui vont devenir cultes. Il faut bien se changer les idées à cette époque. Le tout sur fond d'angoisse, évidemment, de déprime, d'inquiétude permanente devant l'inconnu, devant la pression plus lourde chaque mois d'instances policières qui s'appuient sur le renseignement intime et la délation. Nous allons en parler aussi. Et puis, des mots nouveaux, Ausweis, STO, TSF, couvre-feu, chantier de jeunesse, qui envahissent les conversations de chaque jour. Tels sont les souvenirs marquants que les Français, 70 ans plus tard, conservent directement ou indirectement de ces heures tellement dramatiques de l'occupation nazie entre 1940 et 1944. Alors, disons-le d'emblée, pour éviter bien des mises au point ultérieures, la vie quotidienne des Français sous l'occupation n'a pas été la même sur tous les points du territoire. Déjà au lendemain de l'armistice, la France se trouve coupée en deux, vous le savez. Une zone occupée au nord et sur une bande ouest du territoire, une zone dite libre pour une grosse moitié sud-est. Le nord et le Pas-de-Calais sont rattachés à l'administration militaire de la Belgique occupée. L'Alsace-Lorraine fait l'objet d'une annexion progressive et à l'opposé, le quartier sud-est de la France, le Midi si vous voulez, va longtemps rester sans voir un seul soldat allemand puisque la progression de la Wehrmacht s'arrête grosso modo à une ligne Bordeaux-Saint-Étienne-Valence. Il faudra attendre pour que cela change, novembre 1942 et l'invasion de la zone libre à la suite du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. Donc l'occupation n'est pas la même à Strasbourg, à Lille, à Paris, à Nantes, à Bordeaux, à Lyon ou à Marseille. Ensuite, il faudrait faire une distinction très nette entre toutes ces villes soumises à des rationnements croissants et les campagnes où les événements ne sont pas du tout vécus de la même manière. Aussi, entre les tout débuts de l'invasion, marqués par un exode massif des populations, et puis les années 40-41 où les Français s'habituent tant bien que mal à la présence de ces soldats allemands, que l'on trouve en général corrects, et puis à partir de 42-43, la radicalisation et le climat de peur qui s'installe, notamment sous l'effet des exécutions d'otages. Enfin, il faudrait distinguer les Français occupés en fonction de leurs moyens, évidemment, de leurs relations, pour ne rien dire de leurs convictions politiques. quelques résistants, quelques collabos et entre les deux, une grande majorité de gens qui font le dos rond et qui attendent les jours meilleurs. Ce qui les réunit tous à cette époque, c'est la radio. Quand je dis ce qui les réunit, on pourrait dire exactement aussi ce qui les divise, parce qu'évidemment, c'est une véritable guerre qui s'instaure entre radio collaborationniste et radio proche de la résistance, entre Radio Paris, pour tout dire, qu'on écoute sans se cacher, et Radio Londres, qu'on écoute clandestinement. Le poste à galène autour duquel les familles s'installent en cercle devient en quelque sorte l'objet totem de cette période de l'occupation. Tout à l'heure, nous allons décortiquer les messages si farfelus en apparence qu'envoyait la BBC, vous savez, ce qui était très utile, bien sûr, au réseau de résistance. Nous parlerons de cette radio et spécialement de Radio Londres. J'en ferai tout simplement mon récit. Pour le moment, je vous propose d'entrer plus avant dans le quotidien des Français sous l'occupation.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et en attendant votre récit, Franck, nous vous retrouvons avec votre premier invité sur Europe 1, Fabrice Grenard, qui est historien et auteur notamment du livre « Les scandales du ravitaillement, détournement, corruption, affaires étouffées en France, de l'occupation à la guerre froide », c'est chez Payot.
Bonjour Fabrice Grenard.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints pour parler de ce qui n'est pas toujours très facile ni agréable à raconter. C'est toute l'organisation de ces marchés parallèles liés à la pénurie qu'a connue la France dès 1940. Alors, parlons-en peut-être de cette pénurie. Je pense que c'est évident. Elle venait de la guerre, évidemment. C'est-à-dire que moins de main-d'œuvre, moins de moissons, des circuits de distribution qui sont complètement entravés, et puis beaucoup d'hommes qui sont partis en Allemagne, c'est ça?
C'est ça, donc elle vient de la guerre, mais surtout de l'occupation. L'occupation du territoire par les Allemands, puisque dès la drôle de guerre, en fait, on sent effectivement...
Donc dès septembre 39...
Dès septembre 39, il y a quelques pénuries, mais relativement ponctuelles, qui apparaissent, parce que la guerre... coupe la France de ses circuits de distribution normaux, et puis parce que la guerre nécessite une mobilisation, effectivement, qui empêche les hommes, par exemple, de travailler dans les campagnes.
Alors, quand est-ce qu'on a mis en place le système du rationnement ?
Eh bien, justement, le ministre de l'Agriculture, Queuil, n'a pas voulu mettre en place, à l'époque de la drôle de guerre, un système de ravitaillement généralisé pour ne pas effrayer les Français.
Pour nos plus jeunes auditeurs, je rappelle que ce qu'on appelle la drôle de guerre, c'est la période pendant laquelle la guerre est déclarée, donc à partir de l'automne 39, mais où il n'y a pas encore de combat. L'invasion de la France, c'est seulement mai 1940. Donc là, il y a plusieurs mois pendant lesquels il ne se passe rien. On attend, on s'observe. Et là, il n'y a pas encore de rationnement.
Non, quelques petites restrictions très ponctuelles, mais un système de ravitaillement qui est mis en place pour l'armée, par le biais de l'intendance, mais pas de collecte dans tout le pays, pas de système de ravitaillement général, comme il y aura sous l'occupation. Et donc le grand tournant, en fait, c'est l'été 1940, la défaite de la France, qui plonge la France dans une situation économique telle qu'elle ne l'avait sans doute plus connue depuis l'Ancien Régime, situation de famine. Les hommes sont prisonniers, 1 million de prisonniers donc qui manquent dans les champs. La ligne de démarcation empêche la France du Nord d'échanger avec la France du Sud. Voilà, tout ça fait une situation très compliquée. Et le ravitaillement général va se mettre en place au cours des mois de septembre et octobre 1940, c'est une priorité à ce moment-là pour le régime de Vichy.
Alors, quelle est l'intention du régime de Vichy lorsqu'il met en place ce rationnement ?
Au départ, elle est tout à fait louable. Et d'ailleurs, tous les belligérants, à un moment donné, ont eu recours à ce système. C'est d'essayer d'instaurer une certaine justice sociale par rapport à la répartition. Il n'y a plus assez de ressources disponibles pour tout le monde, donc il faut éviter que seuls les riches puissent continuer à s'approvisionner. Donc on met en place un système de répartition un petit peu autoritaire pour que chacun ait sa juste part dans les ressources de la nation.
Alors ça se passe comment d'un point de vue pratique pour une famille, mettons une famille de 4 ou 5 personnes ?
Alors il y a des catégories qui sont mises en place en fonction de l'âge, du métier. Ça commence par la catégorie E, les enfants. Il y a la catégorie J, adolescents. A, c'est un adulte qui mène une activité normale. La catégorie T, pour les travailleurs de force. Catégorie C, pour les agriculteurs.
C'est-à-dire que les rations ne sont pas les mêmes pour chacune
voilà,
de ces catégories.
Voilà, les rations ne sont pas les mêmes. Et puisque, par exemple, un adolescent a besoin d'avoir des rations plus importantes qu'un vieillard. Pour prendre un exemple, pour un adulte de la catégorie A, c'est la catégorie la plus répandue, à partir du mois d'octobre 1940, on a le droit simplement à 350 grammes de pain par jour, 300 grammes de viande par semaine, 100 grammes de beurre de matière grasse par semaine et 500 grammes de sucre par mois.
Donc, alors, c'est vraiment il faut aller à la mairie chercher son
il faut tout le temps faire la queue. Oui. Donc on commence par faire la queue à la mairie pour récupérer sa carte d'identité alimentaire.
Pardon, c'est ça, je cherchais le nom, la carte d'identité alimentaire.
La carte du ravitaillement. Mm-hmm. Et ensuite, il faut, une fois qu'on a sa carte, il faut aussi tous les mois ou toutes les semaines, selon les produits, retourner à la mairie ou dans des centres administratifs pour récupérer les coupons qui vous donnent droit à l'achat. Et ensuite, une fois que vous voulez acheter, il y a un système d'inscription obligatoire auprès des commerçants qui crée des queues gigantesques. Il faut faire plusieurs heures de queue, souvent pour être approvisionné.
On est dans le beurre fromage, dans l'assiette au beurre de Jean Dutour. Là.
Exactement.
En fait, le crémier, le marchand de bouche devient le roi du quartier, en quelque sorte.
Oui, on parle de petit dictateur au gigot, de petit dictateur au beurre, puisque le petit commerçant devient une personnalité incontournable, c'est lui qui gère un peu les queues, c'est lui qui parfois décide en sous-main d'approvisionner un peu plus telle ou telle personne parce que c'est un ami ou parce qu'elle en a les moyens. Et ça crée, mais ça on en parlera peut-être beaucoup
mais non,
plus
mais
beaucoup
on va en parler
de
maintenant,
rancœur.
C'est ça. Ça crée des rancœurs et donc évidemment des tensions, on va venir aux délations dans un instant, mais ça crée aussi très naturellement, comme dans tout système restrictif par définition, ça crée des marchés parallèles, des corruptions, ça crée ce qu'on va appeler le marché noir.
Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le rationnement officiel ne permettait à un Français d'obtenir qu'à peu près 1500 calories quotidiennes. Or, tous les biologistes savent qu'il faut entre 2000 et 3000 calories quotidiennes pour quelqu'un qui...
Il faut bien les trouver.
Voilà.
Ouais.
Et qu'il fallait donc compléter les rations officielles. Et pour compléter les rations officielles, on va recourir à des trafics parfois de haute volée, c'est le marché noir proprement dit, ou à des petits trafics un peu moins lucratifs, mais qui vont se généraliser dans toute la société, on appelle ça le marché gris.
Oui, c'est ça. Donc le marché gris, c'est ce que chacun fait. C'est le système D, si je puis
c'est
dire.
Ça, oui.
Et puis le marché noir, alors là, ça peut aller jusqu'à l'organisation de réseaux entiers de corruption. Vous racontez tout ça dans Les scandales du ravitaillement, chez Payot et chez le même éditeur, dans La France du marché noir. Et d'ailleurs, vous datez cette période de marché noir, 1940-1949, parce que c'est allé au-delà de l'occupation, il faut le dire.
Bien sûr, ça dure tant que durent les restrictions. Et on l'oublie souvent, le moment où la ration de pain en France est au plus bas, c'est pas du tout sous l'occupation, c'est en 1947.
Alors là, nous parlons d'un rationnement alimentaire qui est le principal, qui pèse beaucoup, bien sûr, sur le quotidien de chacun. Il y a des rationnements dans bien d'autres domaines. Nous allons voir dans un instant quelles sont les conséquences concrètes en matière de liens sociaux de toutes ces pesanteurs et de toutes ces contraintes qui pèsent sur les Français pendant l'occupation.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Surviennent les restrictions dans le domaine de l'alimentation, comme il faut pourtant manger, enfin se ménager. On fait du drogue, du marché noir, sans s'épater, sans s'émouvoir, même des malins, il paraît, fabriquent de vos tickets. Nous, les Français, on ne se fait pas de ville, on ne complique pas sa vie pour ceci.
Nous, les Français, Georges Milton sur Europe 1, nous vous proposons aujourd'hui une émission consacrée à la France occupée. Nous sommes toujours en compagnie, Franck, de votre invité Fabrice Grenard, qui est historien et auteur notamment de La France du marché noir, 1940-1949, à la petite bibliothèque Payot.
Oui, et c'est donc cet ouvrage chez Payot qui est extrêmement détaillé, qui est un ouvrage en partie statistique où vous nous montrez quels sont les coupables, les victimes, d'où ils viennent, comment ils évoluent, etc. C'est un travail extrêmement détaillé. Ce qu'il faut peut-être dire pour qu'on ait ça à l'esprit, c'est que les personnes les plus concernées par toutes ces histoires de rationnement et donc de marché noir aussi, ce sont les femmes. Ce sont elles qui, dans les familles, font la queue pendant longtemps, connaissent les bons filons et se débrouillent comme elles peuvent.
Oui, puisque les femmes, déjà beaucoup de femmes ne travaillent pas en fait à cette époque-là, donc elles sont chargées de l'approvisionnement quotidien. Et il faut bien dire que pour elles, ça tourne à une véritable bataille du quotidien. C'est gérer les tickets, c'est s'informer...
C'est le struggle for life, oui, c'est la bataille au jour le jour.
C'est ça, c'est s'informer dans la presse des rations auxquelles on a le droit, c'est faire les queues, parfois se crêper un peu les chignons parce que quelqu'un essaie de doubler dans la queue, et puis ensuite c'est essayer de trouver de l'approvisionnement parallèle, et pour finir c'est essayer de faire des recettes en appliquant notamment les conseils. Il y a un livre best-seller de l'époque qui s'appelle Cuisine et restrictions. Donc, c'est faire de la pâtisserie sans sucre, essayer de faire cuire des aliments sans beurre ou sans huile. Voilà, c'est vraiment une bataille du quotidien.
Se crêper le chignon, dites-vous, et parfois même se dénoncer. On regarde ce que fait la voisine, de comment elle se procure tel et tel produit. La délation connaît une véritable prospérité pendant cette période de l'occupation. Bonjour Laurent Joly.
Bonjour.
Vous avez dirigé chez Perrin un ouvrage qui s'appelle « La délation dans la France des années noires », justement, et vous montrez qu'une grande part des délateurs sont des délatrices, du reste.
Oui, sont des délatrices, et que les délations, surtout quand ce sont des délatrices, portent sur des affaires de... On pense que le commerçant truque les prix, et donc beaucoup de dénonciations, et on peut même penser que la plupart des dénonciations portent sur des affaires liées au prix au marché noir.
Oui, c'est, il y a,
d'ailleurs, Fabrice,
c'est l'obsession.
Fait
partie des contributeurs,
du livre.
On peut dire que cette nourriture, cette alimentation, c'est l'obsession et ça alimente une grande partie des rancœurs. Mais c'est très loin d'être le seul objet de dénonciation. Alors, vous faites une distinction entre les dénonciations dans les villes et des dénonciations dans les campagnes. En campagne, essentiellement, on est dénoncé pour des ports d'armes illégales, en fait. Hein, c'est ça.
Alors, il y a un volet social de la dénonciation, mais le marché noir, des affaires de mœurs, mais le volet lié au contexte politique d'occupation
de la guerre, oui,
de la guerre est fondamental et très important. Et effectivement, les Allemands en zone occupée interdisent aux gens d'avoir une arme chez eux. Or, surtout dans les campagnes, beaucoup de gens ont gardé le fusil de chasse et souvent ne sont pas allés le remettre aux autorités allemandes, comme plusieurs avis leur ordonnent de le faire. Et donc, si on veut se venger d'un voisin avec lequel on est fâché pour une raison ou une autre, dire qu'il a chez lui une arme dans sa cave ou dans son grenier, c'est très efficace parce que vous pouvez être sûr que des militaires allemands vont venir fouiller la maison. Et quand ils trouvent l'arme, ça peut être des condamnations à mort. Enfin, c'est vraiment là-dessus, ils ne plaisantent pas. Surtout après 42.
Alors dans les villes, en dehors des dénonciations liées à tous les trafics et à tout le marché noir, on va y revenir dans un instant, il y a aussi des dénonciations plus politiques, il faut le dire. On observe d'ailleurs, à mesure que l'occupation avance, une augmentation du taux de ces dénonciations politiques.
L'époque de l'occupation et du régime de Vichy, c'est une époque où il y a, à chaque moment, des catégories qui sont stigmatisées. Les francs-maçons, les juifs, les communistes, à partir de l'entrée en guerre contre l'Union soviétique. Il y a des attentats qu'on appelle terroristes, des attentats de la résistance communiste en France. Et donc, il y a des appels, non seulement des Allemands, des avis sont sans cesse affichés sur les murs des grandes villes, mais aussi à la radio. Le maréchal Pétain va inciter les citoyens à collaborer avec la justice. Vous avez même une loi qui, en octobre 1941, incite les gens à dénoncer. Donc, il y a une série d'infractions politiques qui sont dénoncées. On incite les gens à dénoncer les communistes, les terroristes, les juifs, les francs-maçons.
Alors, qui dénonce, nous commençons à le voir. Comment, à qui d'abord, à qui est-ce qu'on dénonce? On s'adresse aux autorités civiles?
Dénoncer aux Allemands est toujours quelque chose qui... Ça ne va pas de soi.
Oui.
Il faut transgresser un...
Il y a une part de mauvaise conscience trop évidente.
Donc, c'est vrai, la plupart des dénonciations vont aux instances traditionnelles que les gens connaissent. Les mairies et surtout les postes de police. Le commissariat de quartier, c'est lui qui reçoit le plus de dénonciations.
Et sous quelle forme? Sous une forme écrite?
Oui, c'est ça. La plupart des dénonciations sont des lettres écrites. Elles sont souvent anonymes, mais souvent également signés, notamment dans les affaires de marché noir. Les gens revendiquent leur dénonciation. On peut distinguer également qui dénonce, femmes, hommes. Pour les dénonciations politiques, il est clair que les hommes sont majoritaires parce que les femmes, à l'époque, n'ont pas encore le droit de vote. La dénonciation politique est comme une prise de parole politique. Donc, c'est le domaine réservé des hommes.
Plutôt des hommes, oui. Alors, les femmes dénoncent donc massivement des histoires de trafic, ce qui doit être plutôt pratique pour la police, ça, Fabrice Grenet.
De toute façon, c'est tout à fait légal. C'est-à-dire que les préfets demande à ce que si un commerçant ne respecte pas les prix ou les rations, demande au consommateur de le dénoncer. Et ça semble même logique par rapport au consommateur, s'il est floué, eh bien qu'il dénonce un fraudeur ou un trafiquant.
Et est-ce que la police va en tenir compte de ces dénonciations ?
Oui et non. Alors au début, la police s'en tient compte parce que, comme le marché noir est secret, il faut bien pouvoir rentrer dans les trafics et les dénonciations sont pris un petit peu pour argent comptant. Et puis rapidement, on se rend compte que derrière les dénonciations, il y a plus des règlements de compte que des vraies affaires de trafic.
Est-ce qu'on sait s'il y a des dénonciations de personnes qui écouteraient Radio Londres ? Ça, on a ce genre de...
J'ai vu une lettre de dénonciation qui avait été saisie par le contrôle et qui était adressée à Radio Londres. Quelqu'un qui dénonçait, je pense que tu connais cette histoire, Fabrice, qui dénonçait un commerçant qui faisait du marché noir avec les Allemands, qui dénonçait à Radio Londres.
Oui, donc c'était encore autre chose. Nous arrivons dans un instant sur cette histoire incroyable de la guerre des radios pendant l'occupation.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck consacré aujourd'hui sur Europe 1 à Radio Londres.
Nous avons tous l'image de ces Français qui, pendant l'occupation, se réunissent plus ou moins en famille autour de ce poste à Galène, qui est vraiment l'épicentre de la vie du foyer. Et on écoute, cette voix qui vient d'outre-Manche, dans le meilleur des cas, évidemment, et qui est troublée, bien entendu, par cette espèce de petite musique qui est destinée à éviter qu'on entende vraiment bien ce qui se dit. Dès le lendemain de l'appel du 18 juin. On est donc le 19 juin 1940. Le directeur de l'agence Havas de Londres est reçu par le général de Gaulle, qui à l'époque est encore presque inconnu. Il est reçu dans le petit appartement sur Seymour Grove, près de Hyde Park, où le général, fraîchement nommé, tout juste arrivé à Londres, donne ses premiers rendez-vous. Cet homme de presse, ce fils de colonel, s'appelle Pierre Maillot. Il s'est fait accompagner de son ami Robert Mangin. Le général lui confie la mission de créer une agence de presse libre et une radio. En sortant de l'entretien, qui a duré moins d'un quart d'heure, parce que le général a beaucoup de monde à voir à ce moment-là, Maillot déclare à Mangin « Il a l'air rudement gonflé. La mission qu'on lui a confiée lui plaît, en dépit ou à cause de ce qu'elle peut représenter d'impossible. » Exactement au même moment, dans les bureaux de la BBC, on prépare déjà une émission en français qui s'appellera « Ici la France » et qui sera diffusée le soir même de 20h30 à 20h45. Elle est animée d'abord par Jean Masson. Dès le 24 juin, celui-ci est remplacé par un certain Pierre Bourdan. Eh bien, en fait, Pierre Bourdan, c'est le nom de guerre que s'est trouvé Pierre Maillot, l'homme d'Havas. L'émission est d'ailleurs rallongée. Elle aura lieu désormais de 20h30 à 21h. Derrière cette incroyable hospitalité des gens de la BBC, il y a évidemment un ordre émanant directement du Premier ministre. Winston Churchill a senti quelle arme redoutable la radio pouvait être pour fédérer en France les aspirations jusque-là très éparpillées, très disséminées, à résister. Très vite, les Britanniques passent d'ailleurs la main, on peut le dire, à une équipe entièrement française. Début juillet, toute cette tranche radiophonique de 20h30 est structurée. Lancée le 14 juillet sous le nom « Ici la France », nous dit le site francelibre.net, l'émission rebaptisée le 6 septembre « Les Français parlent aux Français » propose aux auditeurs causeries, témoignages, reportages, chroniques, chansons ou slogans, comme le célèbre slogan « Radio Paris-Mans, Radio Paris-Mans, Radio Paris est allemand ». Elle est précédée, cette émission, de 20h15 à 20h25 par le bulletin d'information. On verra tout à l'heure son extrême importance à mesure que la guerre se développe. Et puis, de 20h25 à 20h30 par un programme lancé par Maurice Schumann le 18 juillet 1940, un programme qui s'appelle « Honneur et patrie ». Maurice Schumann va intervenir plus de 1000 fois à la radio pendant cette période de guerre et il laissera la parole au général de Gaulle à 67 occasions. Pierre Brossolette le remplace du 29 mai au 27 juillet 1943, puis Pierre-Olivier Lapie à partir de l'automne 1943. Le 15 juillet 40, revenons donc aux origines de cette Radio Londres, trois hommes déjeunent discrètement dans un restaurant suisse de la City, a raconté Pierre Chatignoux dans Historia. Le chef de file de cette petite équipe, c'est Jacques Duchesne, de son vrai nom Michel Saint-Denis. Michel Saint-Denis, qui est le neveu de Jacques Copeau. Vous savez que Jacques Copeau était ce grand metteur en scène qui a connu une importance extraordinaire pendant l'entre-deux-guerres. Eh bien, son neveu Michel Saint-Denis est installé à Londres, où il a créé une école de diction et de mise en scène. Son alter ego n'est autre que Jean Oberlé, qui est un grand peintre de l'époque, qui en fait détestait la radio. C'est tout le paradoxe de sa situation. Il partageait son temps avant l'armistice entre son atelier de la rue de Lille et la terrasse des Deux Magots, où il prenait chaque matin son petit déjeuner en compagnie de Jean Giraudoux, commissaire à l'information du gouvernement juste au début de la guerre. Le grand dramaturge Jean Giraudoux. Le troisième compère s'appelle Pierre Lefebvre. C'est un Normand. Il a été chauffeur pour de hauts officiers au quartier général. Et au moment où il a appris l'armistice, il a laissé un petit mot d'adieu à son supérieur en disant « Je prends la Hotchkiss pour aller continuer la guerre en Angleterre. Je suis sûr que vous m'approuverez. » Saint-Denis expose l'enjeu de toute cette création d'une radio qui soit une véritable radio de la France libre. Les Allemands, dit-il, vont se servir de la radio pour bourrer le crâne de nos compatriotes. Ceux-ci n'ont qu'une façon de savoir la vérité, c'est d'écouter la radio de Londres. L'important, c'est donc de réunir une équipe au sein de laquelle se trouveront non seulement des rédacteurs indispensables, mais aussi des écrivains de dialogue, des faiseurs de chansons et même un compositeur de musique. Si les journalistes avaient de bonnes voix et des dons pour s'exprimer, pourquoi ne deviendraient-ils pas des acteurs, des speakers, des chanteurs? C'est là l'idée, disons-le, l'idée géniale de Saint-Denis, c'est que d'emblée, il décide de faire une radio qui ne sera pas seulement une radio d'information stricte et un peu dure, mais qui va devenir un véritable programme attrayant pour les auditeurs qui se trouvent coincés, si je puis dire, dans la France occupée. C'est Pierre Maillot qui donc est choisi. Alors c'est à ce moment-là qu'il prend le pseudonyme de Bourdin, d'un petit village du Bourg qui s'appelle Bourdin, dans D'HEM, dans la Creuse. On va revenir évidemment à Pierre Bourdin dans la deuxième partie de cette émission. C'est dans ce petit village de Bourdin qu'il avait passé l'essentiel de ses vacances quand il était adolescent. Alors, c'est à lui que revient la responsabilité d'une page éditoriale très importante qui dure entre 5 et 10 minutes, qui va s'appeler les commentaires. Et dans ces commentaires, qui sont généralement écrits à la diable, au dernier moment, comme ça, sur un coin de table, on connaît ça ici, ça nous arrive de temps en temps, c'est notre quotidien. Ce commentaire va devenir, ces commentaires de Pierre Bourdin vont devenir extrêmement importants dans l'avenir même de la guerre. Alors, autour de lui, il faut citer l'équipe. Il y a donc Yves Morvan, qui lui aussi est rédacteur à Havas, qui va devenir Jean Marin. Et puis, on trouve dans ce premier noyau Jean Oberlé, j'en ai parlé, Jacques Borel, qui est un anarchiste surréaliste, Pierre Lefebvre, et puis Maurice Van Mopes, qui se trouve être un dessinateur qu'on connaît sous le nom de Momo. Il est assez facile à repérer dans la bande et sur les photos, puisque c'est celui qui ressemble vraiment beaucoup à Charlie Chaplin. On dirait Charlot qui aurait rasé sa moustache, disait Pierre Bourdin. Notre expérience de journaliste d'agence nous a puissamment aidés, dira Maurice Schumann, qui est là aussi, bien entendu. Pierre Bourdin savait trouver les mots qui ressuscitaient la fierté et le courage d'un peuple opprimé. S'il n'avait pas eu cette culture humaniste, il n'aurait pas su conquérir l'immense audience qui fut la sienne.
Europe 1. Le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck qui nous plonge en pleine France de l'occupation. Quant à la radio, les Français parlent aux Français.
Alors il y avait effectivement en France un certain nombre de Français, de plus en plus nombreux, qui écoutaient Radio Londres. Radio Londres dont les programmes sont devenus assez vite très attrayants, très variés. C'est Jean Marin qui raconte que c'est en relisant les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas que la petite équipe a trouvé, dit-il, une richesse de vocabulaire et surtout un rythme qui collait parfaitement au style de la radio. Dumas est devenu notre maître. Vous voyez que nous parlions d'Alexandre Dumas avant-hier. Décidément, l'influence de cet auteur aura été considérable jusque dans Radio Londres et jusque dans la façon dont on parlait aux Français depuis la France libre. Alors, je vous ai parlé des chroniques, de ces commentaires de Pierre Bourdin. Je vous donne un exemple. Par exemple, le 10 avril 1940, 1941, voilà ce que dit Pierre Bourdon à la radio de Londres. Le maréchal Pétain nous a dit que l'amiral Darlan avait toute sa confiance. Personne ne veut mettre en doute la bonne foi du maréchal. Mais un soldat connaît les champs de bataille mieux que les marécages de la politique. L'amiral Darlan, lui, a une excellente expérience des choses politiques. Une fois déjà, le maréchal avait accordé toute sa confiance à un homme par qui sa bonne foi fut surprise, c'était Pierre Laval. Vous voyez toute l'ironie, toute la... on essaie de rendre tout ça, évidemment, le plus piquant possible. Alors, on monte un certain nombre d'émissions, nous allons y revenir, il y a des rendez-vous. Peu à peu, un certain nombre de spécialistes de la radio rejoignent l'équipe. Je pense à Pierre Dac, qui arrive en 1943, sortant des prisons d'Espagne, et qui va apporter évidemment son esprit très particulier, sa verve de chansonnier à l'équipe. Il disait, Pierre Dac, qu'il était pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour. Comment est-ce qu'on entend en France la radio de Londres? Eh bien, grâce à des émetteurs très importants, une douzaine d'émetteurs de plus de 100 kW dont dispose la BBC et qui permet de l'entendre en ondes courtes et surtout en ondes moyennes dans la quasi-totalité de l'Hexagone. En face, évidemment, ben en face, il y a d'abord la radio d'État. Alors quand je dis la radio d'État, il serait d'ailleurs plus juste de parler des radios d'État, puisqu'à l'époque, chaque émetteur a sa propre direction d'antenne. C'est assez complexe. C'est d'ailleurs le régime de Vichy qui va unifier tout ça. Alors on essaie, pour essayer de contrecarrer l'influence croissante de Radio Londres, on essaie de faire des émissions là aussi le plus attrayantes possible, en ayant recours à un certain nombre de vedettes, je pense bien sûr à Jean Nohain, dont l'émission Bonjour la France est très suivie à l'époque, mais aussi à Mistinguette, au grand violoniste Jacques Thibault, à Sacha Guitry qui fait des causeries, à Rému, etc. On essaie de faire en sorte que les informations soient un peu moins caricaturales aussi, un peu moins, ressemblent un peu moins à des bulletins d'armée. Mais en vérité, la guerre, elle va être entre Radio Londres et Radio Paris, dirigée directement par l'occupant, sous la direction d'un docteur Beaufanger qui, en fait, est un élève de Goebbels, dont il a pris à peu près tous les mauvais travers. Il a été formé lui-même à Radio Stuttgart pendant la drôle de guerre et il va appliquer à Radio Paris les moyens assez efficaces de la propagande allemande. On connaît, bien entendu, l'utilité pour Radio Paris d'un certain nombre de chansonniers qui se sont compromis dans cette affaire. On disait ici Radio Londres, en se moquant de Radio Londres bien sûr, bobards et chansons, divagations hypocondres ou boniments de francs-maçons, ça faisait partie ça de ce qu'on entendait en permanence sur Radio Paris. Et puis bien sûr il y avait un certain nombre d'éditoriaux, le plus célèbre éditorialiste, quand je dis célèbre, c'est tristement célèbre bien sûr, c'est Jean-Hérold Packy. Je n'entre pas dans toute l'histoire de cette Radio Paris, mais on va revenir dans un instant sur cette guerre des radios. À partir de l'hiver 40, surtout à partir du début de 1941 et jusqu'à l'automne 44, Radio Londres va se mettre à diffuser de plus en plus de messages codés destinés aux forces de résistance sur place. Ces messages étonnants pour le moins, Michel-Roger Ojard en a collecté et décrypté plus de 2500. Il en a fait un livre qui est une véritable curiosité, un régal pour les amateurs de cryptologie. Cela s'appelle « Melpomène se parfume à l'héliotrope ». Drôle de programme.
Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris.
Maurice Chevalier sur Europe 1, Paris sera toujours Paris.
Un de nos auditeurs, pardon, Jacques, nous dit qu'écouter Radio Londres, c'était quand même compliqué. Il fallait posséder une TSF plutôt perfectionnée et bien des Français n'avaient qu'un petit poste peu puissant. Certains n'en avaient même pas. Il valait mieux aussi habiter, dit-il, dans le nord de la France, pas trop loin de Londres. Ça, c'est pas tout à fait vrai. Mais enfin, c'est vrai que, évidemment, plus on s'éloignait de la zone d'émission et plus il était difficile de capter Radio Paris. J'ai habité d'abord Paris, ensuite Clermont-Ferrand, nous dit dit Jacques, évidemment, ça devait être plus facile de capter Londres de Paris que de Clermont-Ferrand. Je suis très heureux de recevoir Michel Roger-Aujard. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Alors, vous nous expliquez qu'en fait, c'est par intérêt pour Pierre Bourdan, au départ, que vous êtes venu à vous intéresser à Radio Londres.
Exactement, je connaissais nullement Pierre Bourdan. Il se trouve que j'ai été nommé proviseur du lycée Pierre Bourdan à Guéret, ignorant tout de lui. Et c'est quelqu'un que vous avez déjà nommé, Pierre Châtignoux, qui un jour a vu me trouver en me disant, voilà, ce serait bien qu'on s'occupe de Pierre Bourdan. Donc il m'a mis en relation avec, chose étonnante, la veuve de Pierre Bourdan, parce que dans mon esprit, il n'était pas possible de rencontrer Madame Zola ou Madame Hugo, la veuve de quelqu'un qui avait donné son nom à un lycée. Donc je rencontre Hélène
Madame Pierre Bourdan.
Oui. Madame Pierre Bourdan. Et c'est à partir de ça que je me suis intéressé à Pierre Bourdan, le journaliste, qui était ancien élève de ce lycée. C'est pour ça que le lycée porte son nom. Et puis dans nos réunions merveilleuses où j'ai rencontré des gens qui avaient fait partie de Radio Londres, la question s'est posée du recensement des messages personnels. Alors à l'époque je travaillais, donc j'avais rien dit, puis le jour où, comme les choses ne s'étaient pas faites, je suis parti en retraite, et bien je me suis dit je vais essayer de collecter ces messages.
C'est un travail de fourmi.
Mais au début j'avais pas du tout imaginé l'étendue que ça pouvait représenter. D'abord, j'ai trouvé une centaine de messages. Je trouvais que c'était bien, déjà. Et puis, on avait dit avec Jean Lanzy, qui est le président actuel de l'Association des Amis de Radio Londres, on fera un petit livre, mais un petit peu confidentiel entre nous. Et puis, en fait, de fil en aiguille, on est arrivé à 2500 et c'est pas fini.
Nous saluons Jean Lanzy très confraternellement.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Ici, on voici le sixième bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant. Heureux qui communiste a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir.
Une archive extraordinaire sur l'antenne d'Europe 1, Franck.
Un ami viendra ce soir. Alors, ces messages, il y en a eu une quantité. On en a déversé comme ça dans les oreilles des Français qui pouvaient entendre Radio Londres pendant des années. Combien est-ce qu'on a chiffré à peu près?
Non, mais j'ai déjà vu le chiffre de 50 000.
Ah oui,
50 000 diffusions, ça veut dire qu'il n'y avait peut-être pas 50 000 messages.
Oui, c'est ça, certains étaient redits.
Voilà.
Hein.
Voilà. Quand on regarde une série de messages sur plusieurs jours, on voit que le même message peut passer 7 fois. J'ai trouvé ça là dans un recueil.
Parce qu'il fallait être certain que ça puisse être entendu.
C'est ça.
Moment,
et hein. Puis il y avait aussi parmi les vrais messages des faux, des messages qui n'avaient aucun sens et qu'on pouvait mettre dans le tas sans souci.
Histoire d'occuper un peu
c'est
les services spéciaux en face.
Il fallait surtout pas qu'il y ait un soir avec deux messages quoi.
Voilà.
Sur la fin, on a à peu près en moyenne 150 messages par jour.
Oh là là, c'est considérable.
Alors, avec des fois des seuils un peu plus bas, mais à partir de mai 44, c'est vraiment considérable.
Vous en avez, Michel Roger-Aujard, recueilli un peu plus de 2500. Quand on dit recueilli, comment procédez-vous? Quel est votre...
Je commence par Internet. Mm-hmm. D'ailleurs, j'ai pas assez remercié les contributeurs Internet. Je le ferai par ailleurs. Donc, on tape message personnel à BBC. On a
un certain nombre
50
de sortes,
réponses. Voilà, ouais. Après, on fait atterrissage message BBC, puis on en a d'autres. Et puis, on arrive comme ça à une quantité phénoménale. Et
ils n'ont pas été officiellement répertoriés, tous ces messages?
Non, alors ils n'étaient pas répertoriés par écrit, surtout pas, pour pas que ça tombe dans la main des ennemis ou des traîtres. Les gens qui les demandaient ou qui les recevaient les avaient en mémoire, ce qui provoque après des erreurs au moment de faire appel aux souvenirs. Il y a des messages qu'on trouve sous trois formes différentes, par trois témoins qui pourtant étaient au même endroit, au même moment, mais qui ont un souvenir différent.
Donc, principe du téléphone arabe, en fait,
un
ça
petit
se
peu,
déforme.
Et voilà, et on disait, tu vas écouter. Alors, des fois, les chefs de la résistance n'écoutaient pas eux-mêmes, mais avaient des écouteurs, si on peut dire. Et je cite le cas d'un petit garçon, enfin, qui avait 14 ans à l'époque, à qui on a dit, tu vas écouter la radio et tu veilleras, tu chercheras les fameux sanglots longs.
Voilà, donc, le sanglot des violons.
Voilà, donc j'ai rencontré ce monsieur qui me dit avoir entendu et dit « voilà, ça y est, les sanglots sont passés ».
Alors ça servait à quoi ces messages? Il faut peut-être qu'on explique ça.
Il y avait plusieurs objets. Le plus développé, c'était l'annonce de parachutage ou d'atterrissage d'agents. Donc des parachutages, alors c'est 90% des messages à peu près. Donc le message annonçant le parachutage avait été convenu à l'avance entre Londres qui envoyait les avions et puis les résistants sur place. Alors des fois c'est Londres qui créait le message et en communiquait la teneur à la résistance sous forme d'un message radio codé, mais très court. Ou alors c'était les Français qui disaient, voilà, lorsque vous serez prêts à nous envoyer les armes, vous ferez passer tel message. Voilà. Donc ça allait dans les deux sens. Les messages du débarquement, hein, du 1er et du 5 juin, ont tous été élaborés en Angleterre. Et ceux-là, on les a, Jean-Louis Crémé-Briac les a cités dès les années 70, quand il a fait son énorme ouvrage sur la radio de Londres. Donc ceux-là, ils étaient répertoriés, connus. Alors il y a une autre source que je veux citer, parce que je trouve qu'elle n'était pas bien connue, c'était le journal de minuit. C'était l'organe clandestin du mouvement France d'abord. Et ils avaient pour mission de retranscrire tout ce qui se disait à la radio de Londres, à Radio Moscou et Radio Alger. Donc il y avait des dactylos, des sténos qui prenaient tout ça. Et donc là, quand on tombe sur... Alors, à la Bibliothèque nationale, il y a une collection d'une douzaine de jours. Donc, quand je suis allé, j'ai trouvé 650 messages. C'est-à-dire que je comprends le plaisir du chercheur quand il trouve.
Quoi. Ah ouais, c'est une mine.
Ah oui, c'est une mine extraordinaire.
Alors, donc, des messages qui avaient des objectifs différents, variés, c'était presque toujours donc des codes. Qui a eu l'idée de ces messages cryptés à la radio?
Alors, il y a peut-être polémique sur l'auteur réel, mais c'est comme toutes les choses nouvelles. Moi, c'est Georges Béguet. Je pense que c'est Georges Béguet qui a été parachuté en France. Sans message, et qui faisait de la radio, qui émettait, et qui s'est aperçu que les émetteurs étaient volumineux, difficiles à cacher. D'ailleurs, un peu après, il y a un résistant qui a été arrêté avec sa valise.
Avec son émetteur.
Et avec son émetteur. Donc il dit, ça peut pas durer comme ça, il faut trouver autre chose qui ne dure pas une heure ou 20 minutes et qui pèse 30 kilos. Donc il a pensé glisser dans quelque chose qui se faisait déjà, c'était les messages familiaux. Hein, les soldats français qui étaient partis de Dunkerque en Angleterre donnaient de leurs nouvelles à leur famille sur la BBC avec des messages.
Alors, on s'est dit on va faire évoluer ce principe.
Voilà.
En fait,
et au début, ça n'a pas évolué du tout parce que les premiers messages c'était Lisette va bien, comme les gens disaient, Robert né à Bordeaux.
Sauf que
embrasse sa femme.
Derrière cette simple petite nouvelle familiale se cachaient parfois de véritables mots d'ordre pour des réseaux de résistance.
Ben ça a annoncé un atterrissage, c'est-à-dire l'arrivée en France de résistants. Souvent formateur pour la résistance.
Ah oui. Alors vous avez intitulé votre ouvrage « Melpomène, ce parfum à l'héliotrope » justement pour souligner le caractère quand même particulièrement surréaliste de certains. Est-ce qu'ils ne s'amusaient pas un peu à Londres avec ça quand même ?
Il y en a qui s'amusaient. D'ailleurs, j'ai lu récemment là un ouvrage sur Vera Atkins et Buckmaster qui était le chef du SOE. Ils aimaient bien eux-mêmes qui étaient anglais mais francophones proposer des messages. Parce que ça les amusait, effectivement. Alors, Melpomène, là, c'est vrai, j'aurais dû poser la question à Stéphane Hessel, parce que Stéphane Hessel a été l'auteur de très nombreux messages, et c'est ce message-là qui lui revient en tête à brûle-pourpoint. Peut-être en est-il effectivement l'auteur. Jean-Louis Crémé-Briac, qui était avec Stéphane Hessel à la même période à Londres, m'a donné tout à fait dans des conditions, dans des circonstances différentes, le même message aussi. C'est-à-dire que ça les avait tellement marqués que Melpomène, ce parfum, est resté dans tous les esprits.
Et ça, c'est resté un peu le mythe. Merci beaucoup, Michel Roger Ojard, d'avoir fait ce très beau travail d'abord. Et puis de nous en avoir parlé avec tout votre cœur. Mel Pomène, ce parfume à l'héliotrope, sous-titré Ici Londres, le quotidien de la résistance au fil des messages personnels. Parce que c'est tout l'intérêt de votre livre que de nous faire partager, au-delà évidemment de tous ces petits messages, tous un peu plus bizarres les uns que les autres, ce qu'ils se cachaient derrière et toutes les grandes opérations, bien entendu, qu'ils étaient censés couvrir. Je rappelle les ouvrages de nos précédents invités, donc de Fabrice Grenard, Les scandales du ravitaillement et La France du marché noir, 1940-1949, puisqu'on a vu qu'en fait, ces marchés noirs se sont prolongés après la guerre, pendant toute la période évidemment du rationnement. Ça, c'est édité chez Payot. Et puis, Fabrice Grenard fait partie de l'équipe des historiens réunis par Laurent Joly dans cet ouvrage paru chez Perrin qui s'appelle La délation dans la France des années noires. Évidemment, on aurait aimé évoquer un certain nombre d'autres aspects. Je parlais de la mode, je parlais de la culture, du théâtre, de tout ce que... Et puis aussi de la façon de se chauffer, des modifications d'habitat, puisque beaucoup de gens ont dû déménager, partir de la ville à la campagne, ou au contraire se regrouper, etc. Nous aurons sans doute d'autres occasions de parler de l'occupation. J'étais heureux de le faire aujourd'hui sous cet angle un peu particulier des messages étranges envoyés par Radio Londres. Merci à tous et merci à vous encore une fois, Michel Ojard.